Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la neurofibromatose de type 1 et pour parler de son diagnostic, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Laura Fertitta. Docteur Fertitta, bonjour.
Bonjour et merci de cette invitation.
Docteur Fertitta, vous êtes dermatologue au sein du service de dermatologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil et vous êtes également médecin du centre de référence des neurofibromatoses, le CRNF, sous l'égide de la filière Fimarad. Alors, docteur Fertitta, avant d'aborder son diagnostic en tant que tel, devant quel type de symptômes suspecter une neurofibromatose de type 1 ?
Alors, la neurofibromatose de type 1 se suspecte en premier lieu devant des signes dermatologiques. Hein, c'est pourquoi c'est une pathologie qui est, en tout cas à l'échelle nationale en France, assez dédiée à la pratique dermatologique. Alors, chez les enfants, le point d'appel clinique le plus fréquent est la présence de taches caféolées. Donc, ce sont ces macules pigmentées qui sont en nombre important sur l'ensemble du corps. La taille de ces taches dépend de l'âge. D'autres manifestations dermatologiques à l'âge pédiatrique peuvent faire évoquer une NF1, en particulier certaines malformations congénitales, puisque la NF1 peut être associée à des neurofibromes qui peuvent être plexiformes et volontiers congénitaux et présents donc très précocement chez ces enfants. D'un point de vue dermatologique, ce sont les deux principales lésions qui vont faire évoquer ce diagnostic. Chez l'adulte, alors certes, il peut y avoir ces mêmes manifestations dermatologiques que décrites chez l'enfant, mais les taches caféolées ont tendance à régresser avec l'âge avançant de la personne. Premier point. Second point, chez l'adulte, ce sont volontiers les neurofibromes cutanés qui se localisent sur la peau, qui sont en relief, de taille variable et de forme variable, mais allant, disons, de la taille millimétrique à 15 mm. Et ce sont ces tumeurs-là qui peuvent faire évoquer, en association à des taches caféolées, le diagnostic de NF1 chez l'adulte. Le dernier point, je dirais que ce sont des présentations un petit peu plus sourdes chez des patients qui auraient peu de taches caféolées, des neurofibromes cutanés en faible nombre et qui finalement se présenteraient avec un tableau plus profond fait de neurofibromes internes, donc avec une présentation plutôt neurologique chez des patients qui vont avoir une masse palpée un peu plus profonde ou d'ailleurs des douleurs associées et ou encore un déficit neurologique. Et donc, c'est parfois sur cette présentation plus tumorale, neurologique profonde que est évoqué le diagnostic de NF1. Il faut bien entendre de manière absolue que la pénétrance de cette maladie est complète à l'âge de 8 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'âge de 8 ans, un enfant, s'il a une NF1, elle se voit. Voilà, avec les critères diagnostiques appropriés.
Alors justement, devant ces tableaux cliniques, comment poser le diagnostic de cette maladie rare ?
Alors, le diagnostic de NF1 est un diagnostic avant tout clinique. Il repose sur des critères qui ont été dans un premier temps établis en 1987 lors d'une conférence de consensus des NIH et puis récemment révisé en 2021 par un comité international d'experts. Ces critères sont donc avant tout cliniques. La particularité des critères révisés en 2021 est que dorénavant, l'outil moléculaire apparaît noir sur blanc dans ces critères, donc la présence d'un variant pathogène hétérozygote du gène NF1 apparaît comme un des critères de la NF1, ce qui ne veut pas dire que cette analyse moléculaire est à réaliser de manière systématique. J'insiste sur le fait, encore une fois, que ce diagnostic de NF1 est clinique. Parmi les critères diagnostiques, on retrouve la présence d'au moins 6 taches caféolées, dont le diamètre dépend, comme je vous le disais, de l'âge de l'enfant, avec chez l'enfant prépubère une taille de 5 mm au moins, et chez l'enfant pubère, donc après la puberté, 15 mm. La présence de l'antigène, donc qui sont ces lésions maculeuses toutes petites et qui ressemblent à des taches caféolées mais millimétriques, qui est nécessaire au niveau axillaire et ou inguinal et de manière bilatérale. La présence d'au moins 2 neurofibromes, quel qu'en soit le type, ou un neurofibrome plexiforme, ces formes notamment congénitales qu'on évoquait tout à l'heure. La présence d'un gliome des voies optiques, qui est une des complications redoutées de l'âge pédiatrique. Des particularités à l'examen ophtalmologique sont également à rechercher avec la présence de nodules de Leech. Ce sont des lésions particulières qui se voient à la lampe à fente, qui sont bénignes, qui n'entravent pas du tout l'acuité visuelle, mais voilà, qui sont un des signes ophtalmologiques de la maladie. La présence d'amartomes choroïdiens, qui sont autrement appelés taches de Yasunari, à l'examen particulier qu'est la tomographie par cohérence optique, est également un nouveau critère apparu en 2021, un critère ophtalmologique toujours. La présence d'une lésion osseuse également peut faire évoquer le diagnostic, donc dysplasie notamment de certains os ou des courbures antérolatérales, notamment des tibias. Et donc le variant pathogène, c'est-à-dire la présence de cette mutation hétérozygote du gène NF1. Donc pour poser son diagnostic, il faut que parmi les 7 critères là que je viens de vous citer, il faut qu'il y en ait au moins 2 qui soient présents. Concernant ces critères diagnostiques, il est évident qu'en présence d'un parent atteint de NF1, eh bien, le diagnostic chez l'enfant de ce parent pourra être posé que s'il n'y a qu'un seul critère et non 2 parmi ceux précédemment cités.
Et en termes de diagnostic différentiel, quels sont ceux à écarter, docteur Fertitta ?
Alors, il existe plusieurs pathologies qui s'associent à des anomalies pigmentaires, des taches caféolées, puisque comme on le disait tout à l'heure, les taches caféolées sont vraiment la première manifestation dermatologique à évoquer. Parmi ces pathologies associées, il y a des anomalies de réparation de l'ADN, il peut y avoir certains déficits immunitaires primitifs, il peut y avoir certaines endocrinopathies. Mais disons que c'est quand même autour des génodermatoses que se concentrent la plupart des diagnostics avec des taches caféolées multiples, et en particulier ce large groupe que l'on appelle les rhassopathies, qui sont dans un contexte physiopathologique de suractivation de la voie RAS. Parmi ces rhassopathies, je dirais que le principal diagnostic différentiel à évoquer est le syndrome de Legius. Le syndrome de Legius est une génodermatose qui se caractérise par la présence de taches caféolées, mais qui, à l'inverse de la neurofibromatose de type 1, n'associe pas de neurofibrome. Et on a vu tout à l'heure qu'à l'âge adulte, c'était une des caractéristiques dermatologiques fréquemment associées à la NF1. Et d'autre part, le pronostic, la morbidité, la mortalité du syndrome de Legius est tout à fait différente par rapport à la NF1.
Et lorsque le diagnostic de neurofibromatose est posé, qu'en est-il de l'évaluation de la sévérité de la maladie ?
Alors là encore, la sévérité de la maladie va s'évaluer différemment à l'âge pédiatrique et à l'âge adulte. À l'âge pédiatrique, eh bien, on va évaluer la sévérité en fonction des principales complications connues à cet âge. Surtout des anomalies dans le développement psychomoteur avec des retards d'acquisition. Donc ça, c'est véritablement, je pense, à l'âge pédiatrique, quelque chose qui est à explorer, à étayer, et donc en mettant en place des dispositifs si nécessaires, que ce soit avec l'intervention d'orthophonistes, de psychomoteurs, d'aide scolaire, etc. Évidemment, toujours à l'âge pédiatrique, il y a la charge tumorale, c'est-à-dire la présence, comme on l'a vu tout à l'heure, de neurofibromes plexiformes congénitaux peut entraîner à la fois sur le plan local une gêne fonctionnelle, une gêne esthétique, bien sûr, un retentissement psychologique, fonctionnel, et parfois moteur, s'il s'agit par exemple d'un membre, parfois des douleurs, donc là véritablement en lien avec cette tumeur congénitale. Il peut y avoir également des complications qui sont à rechercher à l'âge pédiatrique ophtalmologique, et en particulier le gliome des voies optiques, dont l'exploration varie un petit peu selon les centres, je dirais. Néanmoins, un examen ophtalmologique minutieux est impérativement à réaliser et régulièrement chez l'enfant. On peut également avoir recours à une IRM cérébrale en cas de doute pour rechercher cette tumeur. Et puis enfin, il y a toutes les complications qui sont citées dans les critères, qu'elles soient en lien avec une dysplasie osseuse, avec un retard de croissance, par exemple, qui ne fait pas partie des critères, mais qui est fréquemment associé à la NF1. Voilà, tout ça, ce sont des complications qui sont à explorer, à surveiller à l'âge pédiatrique, et c'est un peu de cette manière qu'on évalue la sévérité. À l'âge adulte, en revanche, disons qu'on va être un petit peu plus monocentré dans les complications que l'on va redouter. J'entends par là qu'il s'agit surtout des tumeurs malignes des gaines nerveuses que l'on va redouter et que l'on va donc scruter vraiment consciencieusement. Nous avons défini ce que l'on peut appeler un phénotype à risque de développer donc ces tumeurs qui sont malignes. Hein, ce sont des cancers, des sarcomes, c'est un sous-type de cancer. Ces tumeurs malignes de gaines nerveuses sont plus fréquemment retrouvées chez des patients avec une NF1 qui ont plusieurs neurofibromes sous-cutanés. Donc, à la différence des neurofibromes cutanés que l'on voit, ceux-ci sous-cutanés se palpent, et ou des neurofibromes internes connus. Donc, en pratique clinique, on va rechercher si le patient a ces neurofibromes sous-cutanés en grand nombre, au moins 10, et ou s'il a des neurofibromes internes connus. Et en fonction de la présence de l'un ou l'autre de ces signes, eh bien, on va surveiller par une imagerie métabolique. Alors ici, dans le centre de référence à Henri Mondor, nous avons la chance de pouvoir utiliser une TEP IRM, mais sinon une imagerie métabolique chez notamment les jeunes adultes avec une NF1, puisque l'on sait que cette complication apparaît surtout chez le jeune adulte, hein, c'est-à-dire fin de l'adolescence, 20 ans jusqu'à 38-40 ans, chez ces jeunes patients à phénotype à risque. On propose une imagerie métabolique et puis après, bon, le suivi va dépendre évidemment de ce qu'aura donné l'imagerie et s'adaptera au cas par cas. Voilà. Chez l'adulte, on se concentre véritablement sur cette complication et c'est comme ça que l'on évalue la sévérité.
Eh bien, merci mille fois, docteur Fertitta, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la neurofibromatose de type 1. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.